La recrudescence de l'insécurité à Bangui et à l'intérieur du pays, c'est le thème de Patara, le débat politique de ce jour. En effet, plusieurs violences des droits humains perpétrées par des hommes armés non identifiés ou appartenant aux groupes armés connus ont été répertoriées ces derniers temps à Bangui et à l'intérieur du pays. Des violences qui se sont soldées par des pertes en vies humaines et pillages de biens. Au début de cette semaine, les autorités de Lompendé ont déploré l'encerclement de la ville de Bozoum par les rebelles de 3R. Les entrées et sorties du chef-lieu de cette préfecture ont été même contrôlées par ces rebelles quelques jours avant de les libérer eux-mêmes. Un autre exemple, la présence d'hommes armés, cette fois non identifiés, a été signalée à la périphérie de Rafaï. Des sources locales ont expliqué que même s'ils ne sont pas encore agressifs, leur présence inquiète la population qui craint des violences. Cependant, le parti Chemin de l'Espérance d'Abdou Karim Mekassoua a dénoncé l'assassinat d'un de ses candidats aux législatives par des hommes armés inconnus le 6 juillet entre Bakala et Bangela sur l'axe Bambari, ici à Bangui, la capitale. Depuis fin 2020, des centaines de familles ont été victimes de braquages. Ces vols à main armée tournent parfois au meurtre. Question, que fait concrètement le gouvernement pour sécuriser la population? Est-il dépassé par le cours des événements? Comment expliquer la montée d'insécurité en cette période d'état d'urgence et de couvre-feu? Les rebelles auraient-ils adopté une nouvelle stratégie face à l'offensive des forces de l'ordre et de sécurité nationale à l'intérieur du pays? Et comment faire pour juguler totalement cette insécurité que vit la population centrafricaine? Voilà tant d'interrogations qui guideront le débat de ce jour. Et pour en parler, je reçois sur le plateau du studio B de Radio Ndekeluka, Maître Bruno Yacine Bigba. Bonjour.
Bonjour monsieur les journalistes, oui, bonjour Armando, à tous les auditeurs.
Membre du groupe de travail de la société civile GTC, monsieur Fidèle Gwandikia, bonjour.
Bonjour.
Conseiller spécial du président de la République, Faustin Alcantouadira.
Ministre conseiller spécial, s'il vous plaît.
Voilà, monsieur Jean-Michel Mandaba, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes président du Parti pour la gouvernance démocratique, un parti centriste. Et monsieur Raymond Adouma, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous les auditeurs.
Ancien ministre et membre de la coalition de l'opposition démocratique 2020, COD 2020, Armando Anguindi, c'est bien moi. Bonjour à toutes et à tous, le débat c'est tout de suite.
Vous écoutez Patara, le débat politique sur Radio Ndekeluka.
Ouvrons le bal avec vous, ministre et conseiller spécial du président de la République. Je rectifie selon votre propre terme. Malgré les ratissages, patrouilles et fouilles en région et dans la capitale, le nombre de braquages à Bangui et dans certaines villes de province devient inquiétant. Comment expliquez-vous cela, monsieur?
À cette question, vous devriez d'abord présenter aux auditeurs le pourcentage de cette recrudescence. C'est-à-dire que, on a X% de braquage d'insécurité dans le pays et aujourd'hui, nous sommes à X plus N%. Et c'est comme ça que j'allais peut-être vous donner une bonne réponse. Mais pour répondre à votre question, vous savez que cette histoire d'insécurité dans le pays ne date pas d'aujourd'hui. Ça date des années beaucoup plus 90, depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui. Et on a eu l'apogée de cette insécurité le 13 janvier, où tous les groupes rebelles...
Le 13 janvier 2021,
s'il vous plaît. Le 13 janvier 2021, c'est là où on a vu la convergence de tous les groupes armés, surtout ceux qui se sont associés à la CPC du général Bozizé. Donc, à 9 km de Bangui, vers la sortie ouest, en allant vers Mbaïki, à 9 km du centre de Bangui, il y a eu des gens super armés qui étaient là à 12 km sortie nord. Le kilomètre 12 était bouclé, contrôlé par les rebelles. À 3 km du domicile du chef de l'État, à l'école Ama, le dispositif pour brûler le pays était au point. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Ils ont reçu une bonne correction, une bonne chicotte. Si vous montez derrière la colline de Yazi pour aller vers Vodombala, vous allez remarquer 200 à 300 motos calcinées qui jonchent le sol ici. Aujourd'hui, ces gens-là, éclaboussés, pulvérisés, ne peuvent plus converger leur action ici à Bangui. Alors, compte tenu du fait qu'ils ont échoué le 13 janvier 2021 devant la puissance du feu des FACA, qu'ils sous-estimaient. Maintenant, ils se sont éparpillés partout sur l'ensemble du territoire pour faire ce qu'on appelle la guerre asymétrique et transformer cette guerre-là en guérilla, en zaragina, qui n'est pas un mot centrafricain qui vient d'ailleurs, et même des anciens ministres se comportent en coupeurs de roues. Un ancien président de la République est devenu zaragina. Et donc, pour nous, au niveau du gouvernement, on appelle ça des petites escarmouches qu'on va bientôt endiguer.
Je reviens, je reste toujours avec vous. Lorsque vous parlez de donner un pourcentage, nous sommes aujourd'hui, on ne sait pas ce qui pourrait advenir, parce que le cas de braquage, par exemple, à Bangui, vous-même, vous l'avez mentionné, la guet-apens à l'intérieur du pays, ça se poursuit. Donc, ça ne nous donnera pas l'occasion de donner un pourcentage comme vous le voulez, comme vous le souhaitez.
Mais quand même,
il y a des cas que vous-même, vous...
Nous avons la situation générale de la sécurité en République centrafricaine. Et je vous parle en tant que membre permanent du Conseil de défense et de la sécurité de la République centrafricaine.
Et donc la sécurité est au beau fixe.
La sécurité, je ne peux pas dire que la sécurité est au beau fixe, mais nous contrôlons la situation. Il n'y a que quelques villes de province de notre pays et une petite bourgade de Bangui qui est inquiétée.
Vous allez nous permettre de mieux comprendre ce qui se fait en ce moment au sein du gouvernement pour la sécurisation de la population et surtout de Bangui. La même question avec tout le monde autour de cette table. D'abord avec vous, Monsieur Raymond Adouma, sur la question de montée de braquage à Bangui et à l'intérieur du pays ces derniers temps.
Merci Armando. C'est une situation à laquelle il fallait s'attendre parce que on n'a pas du côté du gouvernement une vision claire d'une certaine politique de sécurisation du pays. Aujourd'hui, je peux dire que le centrafricain vit très mal chez lui. Et nous savons depuis un peu plus de 5 ans que le nombre de gens tués a été le plus important. Ça, on ne peut pas le nier. Et donc, on a eu un gouvernement qui est arrivé, malgré lui, à la tête du pays, qui ne s'occupe que du maintien de son pouvoir, mais pas de la sécurité de la population, et qui est là en train soit de pactiser avec les groupes armés quand ça l'arrange pour se maintenir au pouvoir, soit se mettre à renier ses partenaires d'hier, parce qu'on disait, par exemple, hier, que ceux avec qui le gouvernement a signé à Khartoum étaient des partenaires de la paix. Donc c'est un gouvernement qui n'a aucune ligne, aucune cohérence dans sa ligne de gestion de la sécurité de ce pays, qui ne sait même pas ce qu'il fait, qui va au pif pour traiter des questions à la va-vite. Et je suis très content que celui qui a annoncé le touloulouloulou des Russes ici qui allait régler le problème comme un bâton magique soit là et qui ne peut pas nous dire...
Du ministre conseiller.
Du ministre conseiller Monsieur et qui Fidegua, ne peut pas nous dire quels étaient les objectifs qu'ils recherchaient, où est-ce qu'ils en sont puisqu'ils s'intéressent bien à la mesure des choses. Je voudrais bien savoir quels objectifs ils s'étaient fixés, où est-ce qu'ils en sont exactement. Et quelles sont les actions correctrices qu'ils comptent mener pour endiguer la question de sécurité à quel moment? Donc, qu'on ne nous dise pas n'importe quoi. Les Centrafricains qui m'entendent aujourd'hui savent qu'ils vivent très mal dans leur pays. Et que le ministre conseiller lui-même ne peut pas quitter ici, voyager tout seul pour aller jusqu'à Linda ou ailleurs. Ça, nous le savons. Moi, j'ai été en province. J'ai fait la route. Et n'eût été la sécurité de la MINUSCA, on ne serait pas allé plus loin que ça. Bien qu'étant dans un convoi, mais par deux fois, on allait me prendre mon véhicule. Et donc, on ne peut pas dire aujourd'hui que le Centrafricain est sécurisé quelque part. C'est du fiasco, ça nous le savons. Et à Bangui, la question des braquages, elle est récurrente. Et effectivement, cela se passe au-delà de 22 heures. Et nous savons que la sécurité même de Bangui n'est pas assurée. Il y a un mois... Il y a un frère...
Dans quelques secondes, vous avez épuisé votre temps, oui, finissez rapidement. Oui,
un frère qui est arrivé de l'étranger, qui était tombé malade à 22h, voulait aller à l'hôpital, quand il s'y rendait, il n'a trouvé aucune force de l'ordre dans toutes les voies qu'il a parcourues. Il a été à l'hôpital communautaire, à l'hôpital général, à l'hôpital de l'amitié, mais il n'a trouvé aucune force de l'ordre sur la route.
On y reviendra. Monsieur Jean-Michel Mandaba, vous êtes président du parti PDG, PGD, c'est ça. C'est un parti centriste. Quelle est votre lecture de la situation sécuritaire actuelle à Bangui et à l'intérieur du pays?
Merci Armando. J'ai suivi avec beaucoup d'attention votre thème qui pose au jour d'aujourd'hui un problème réel aux Centrafricains. Et la question avait été posée et je me demandais dans un premier temps de savoir est-ce que pour ce débat, on a vraiment un répondant au niveau du gouvernement. Mais de par la présentation du ministre conseiller, chef de l'État, je pense qu'il est bien, il y a un répondant qui est là et qui peut bien nous donner un détail à ses préoccupations. Oui, problème, on ne serait pas dans ce débat-là. Et le ministre conseiller a parlé de ce que la sécurité ne date pas d'aujourd'hui. Ce qui est vrai, c'est que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est une question de gestion d'un pays. Et c'est même pour ça que le Centrafricain, quand il veut être au pouvoir, il doit s'entourer de tous les aspects, pour voir comment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'insécurité. Parce que c'est le thème qui nous préoccupe. Personne d'entre nous ici ne dit que là, c'est l'affaire du régime en place. Non, on ne peut pas le dire de cette manière-là. Bon, maintenant, la question que nous devons nous poser, comment faire pour endiguer...
Mais qui va gérer si ce n'est pas le régime?
Non, attends, à dommage, quand tu intervenais, je n'ai pas coupé. Je dis que, quand je dis comment faire, c'est à commencer par les gouvernants. Quelle stratégie, comme vous venez de le dire, quelle stratégie le gouvernement a mis en place exactement pour endiguer ce mal-là? Parce que ce n'est pas seulement au niveau de Bangui. Comme vous l'avez si bien dit, vous avez signalé les braquages, vous avez signalé les cas. Il y a même pire que ça. Mais au niveau des provinces, au jour d'aujourd'hui, pratiquement généralisé. Nous autres, centristes, pensons que c'est une question de gestion de la sécurité du Centrafricain au niveau de l'État.
Donc vous voulez parler du gouvernement?
Je veux parler du gouvernement. Et c'est pour ça que je me demandais, je posais cette question et que j'ai un répondant qui est là. Et surtout que le ministre conseiller siège dans un comité qui traite de ces questions-là. Et ces questions, nous aurons les éléments de par son intervention parce qu'il a commencé par vous dire de présenter les statistiques. Il en a fait une démonstration ici et vous avez répondu. Nous aussi, nous disons, nous centristes, disons que ce mal-là, c'est même pour ça. C'est même pour ça parce que c'est récurrent. C'est hier, c'est aujourd'hui, ça s'empire, ça monte, ça prend une autre proportion. Et nous pensons au niveau de notre plateforme, des partis politiques centristes, que ce n'est plus une question d'individus, c'est une question de tous les Centrafricains. C'est pas seulement une question, c'est vrai que le pouvoir le gère, mais c'est pas seulement une question du pouvoir, c'est une question de tous les Centrafricains et à tous les niveaux.
Comment?
Comment? Alors, on a demandé, on a dit, nous centristes, disons par exemple que pour endiguer, il faut que tout le monde soit là autour d'une table. Le chef de l'État fait une initiative d'un dialogue républicain. Donc ils diront que c'est un dialogue de trop. Mais c'est un fora dans lequel on doit se retrouver pour se dire des choses.
Ce n'est pas une discussion, on vous, l'a dit. En vous écoutant, M. Jean-Michel Madaba, pour éradiquer, pour endiguer cette insécurité...
Il faut d'abord commencer par la racine.
La meilleure manière pour vous, c'est...
C'est que tous les Centrafricains...
C'est le dialogue.
C'est le dialogue. C'est le dialogue qu'on comprenait par le chef de l'État. Mais ce dialogue doit être inclusif. Et nous, au niveau des centristes, disons que même l'ancien chef de l'État, le président Bouzézéki, avait pris les armes. Nous le disons. Pourquoi? Parce qu'il doit expliquer aux Centrafricains...
Voilà, vous avez...
Il a pris les armes. Et le gouvernement aussi, doit nous dire comment, à ce niveau, il n'a pas réussi. Et pourtant, il y a nos forces nationales qui sont là, les FACA qui sont là, avec nos forces alliées. Comment, jusqu'à ce niveau, le gouvernement n'a pas pu endiguer
voilà. Cet handicap pour le Centrafricain? Je vous en prie, on y revient un à un sur certains points que vous avez déjà évoqués. Les plaintes et craintes de la population sont de plus en plus grandes, même ici dans la capitale. Quelles sont les meilleures manières pour mettre fin à cette violence, Maître Yacine Bigba?
La question, je la pose à deux niveaux. Parce que au niveau de la capitale, le problème n'est pas le même qu'en province. Parce que dans la capitale, nous avions affaire à des braqueurs. Au moins, à Bangui,
des hommes armés non identifiés, voilà. À Bangui.
À Bangui, c'est la capitale politique. On devait et on doit prendre des mesures pour sécuriser la population. Et la population se pose cette question. Comment, dans un état où il y a le couvre-feu, nous pouvons vivre constamment l'insécurité? Si nous vivons l'insécurité, c'est simple. Cela veut dire que les forces de l'ordre n'assurent pas notre sécurité au-delà de 22 heures. Parce que logiquement, à 22 heures, personne ne doit plus se promener. De 22 heures à 5 heures du matin. Si les braquages ont lieu entre 22 heures et 5 heures du matin, ça dit que la population est abandonnée par les forces de l'ordre. Alors que nous devions faire et nous devons faire de ce problème de la sécurité un problème d'intérêt national. Nous sommes disposés à aider le gouvernement dans les réflexions et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais il faudrait aussi que le gouvernement adopte une stratégie pour réfléchir sur ce qui se passe. Qui se promène au-delà de 22 heures pour commettre ces braquages-là? Et pourquoi, pendant les heures de couvre-feu, il n'y a pas de patrouille? Maintenant, pour ce qui concerne
les
provinces, nous savions que les rebelles abandonnent les villes lorsque les forces armées centrafricaines et les forces alliées arrivent. Alors, quand ils abandonnent, ils partent en brousse. Le ministre conseiller a dit qu'ils font maintenant la guerre asymétrique. S'ils font la guerre asymétrique, étant donné qu'il est fait partie du Conseil de sécurité, est-ce qu'on a maintenant une stratégie pour combattre ces rebelles-là qui ont adopté une autre stratégie parce qu'ils ne combattent pas quand nos forces arrivent dans les villes qu'ils détenaient. Vous voyez, quand ils se retirent, ils partent en brousse. Et on a vu avec le convoi du révérend Guéréco Yamé qui a été victime de ces bandits. Ils sont sortis simplement, ils ont tout pris, ils ont brûlé et après ils repartent dans la brousse. Maintenant, nos forces de défense et de sécurité et leurs alliés doivent adopter une autre stratégie. Et nous devons réfléchir avec nos autorités et nous les interpellons pour que vraiment on puisse prendre des mesures. En ce qui concerne l'insécurité de la population, nous ne voyons aucune décision. Et c'est ça qui nous inquiète.
Quelques Centrafricains pointent du doigt une complicité présumée de certains éléments de force de l'ordre avec des auteurs de braquage. C'est ce que même Maître Yassine Bigbe venait en peine de l'évoquer. Qu'en pensez-vous, monsieur le conseiller spécial du président de la République, Fidèle Wandjika?
Je ne vais pas ici sur cette tribune parler d'une certaine ou quelconque complicité des éléments de force de défense et sécurité avec les braqueurs. Nous savons tous que lorsque il y a eu cette crise en République centrafricaine, beaucoup de nos soldats ont gardé des armes vers eux. Ces armes-là sont pour eux une occasion ou une possibilité de gagner de l'argent par ce qu'on appelle les braquages. Mais pour répondre aux interrogations des mains contradicteurs ici, le gouvernement a une stratégie bien huilé pour réduire, mais pas éliminer, l'insécurité dans notre pays. Parce que les braqueurs, on les appelle ailleurs des pirates sur les mers, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, dans le monde entier, on trouve des gens qui braquent les grands paquebots pour vider le contenu de ces paquebots-là. Il y a même des pirates de l'air qui rentrent dans l'avion, dans les avions de grande ligne et qui détournent ces avions. Et au niveau de Bangui, vous savez bien qu'au niveau de Bangui, il y a une réponse vigoureuse à ce phénomène de braquage. Il y a eu une opération, une vaste opération policière renforcée par les FACA et la gendarmerie qui a arrêté plus de 300 personnes jusqu'à aujourd'hui et a récupéré un arsenal de guerre. On n'a jamais vu ça depuis le régime que le pays a connu jusqu'à aujourd'hui.
Et pourtant, responsables de la sécurité ne parlent pas de ces arsenals. Mais sous votre permission, Monsieur Fidèle Wandjika...
On en a parlé sur votre onde ici.
Monsieur Fidèle Wandjika, sous votre permission et sous la permission de chacun de nous ici autour de cette table, je vais vous présenter le reportage sur les fuites dont vous avez fait allusion. Les fuites se poursuivent dans Bangui.
Vous ne prenez pas ça sur mon temps de parole. Parce que
vous avez épuisé de les 2 minutes que je vais donner tout à l'heure. On va écouter notre reporter Christ Jordan Badengbi qui a sillonné certains secteurs de Bangui lors de ses fouilles.
Les fouilles ont concerné une partie du 6e arrondissement de Bangui. Selon certains habitants, la zone a été bouclée de 3h à 11h du matin. Il s'agit des secteurs de Fatima en allant vers Padre Pio. Un habitant du secteur qui a vu sa maison fouillée par les forces de l'ordre témoigne.
C'est une bonne initiative que le gouvernement a mise en place. Ils nous demandent des cartes nationales d'identité. Mon enfant leur a présenté le récépissé, mais ils ont refusé et l'ont embarqué. Quand tu leur présentes la carte d'électeur, ils la détruisent. Ce n'est pas normal.
Selon d'autres habitants, les forces de défense et de sécurité ont aussi saisi un certain nombre d'effets militaires. Pour une habitante de Fatima, il n'est pas normal que la police prenne tous les matériels qu'ils trouvent.
Dans ma maison, je dispose des couteaux et des machettes pour mon commerce. Si la police a saisi tout ça, comment je vais faire? Ils doivent bien fouiller. Si ce sont des armes, ils peuvent bien les emporter.
De son côté, un autre habitant appelle tous les Centrafricains à coopérer.
Je demande à tous les Centrafricains d'aider la police dans ce travail pour ramener la paix et la sécurité dans notre pays.
Les forces de défense et de sécurité n'ont pas présenté un bilan officiel de cette fouille dans une partie du 6e arrondissement.
Voilà, merci à vous, Christ Jordan Badengbe. Je vous remets la parole, Monsieur Fidèle Gwandjika, 1 minute sur ce reportage vous venez d'écouter avec la plainte même de certains Centrafricains sur ce que vous appelez de fouilles et patrouilles dans la ville de Bangui.
Mais l'opération continue, ce n'est pas fini. Ils vont refaire encore le tour de tous les arrondissements pour que la quiétude recherchés par les Centrafricains viennent. Nous avons vu également au niveau, je parlerai du 3e et 8e arrondissement, il y a un certain monsieur Ndoura Meksan, adjoint du chef Saddam de la milice du PK5, qui a monté sa propre milice et qui fait ce genre de braquage-là la nuit.
Donc il est identifié, le gouvernement. Mais pourquoi ne pas directement l'arrêter?
On n'arrête pas les gens comme ça. On n'arrête pas
puisque vous l'avez déjà identifié.
On l'a identifié. Maintenant, il y a une opération que je ne veux pas divulguer ici, qui est mise en œuvre pour anéantir ces gens-là. Et lorsque
Monsieur
Adouma du Code 2020 dit qu'on ne peut pas se déplacer de Bangui à l'intérieur du pays, et lui-même il se contredit en disant qu'il a fait la route avec son véhicule,
mais escorté selon lui,
même escorté ou pas escorté, les gens quittent aujourd'hui. Il y a des commerçants qui viennent des provinces, il y a des échanges commerciaux qui se font entre Bangui et l'arrière-pays. Et pour répondre à monsieur Jean-Michel qui encourage un dialogue politique inclusif, il s'agit d'un un dialogue républicain, ouais, où on a besoin des gens qui sont républicains pour s'asseoir autour de la table, mais pas des gens qui ont pris des armes délibérément pour tuer. Et vous dites que ce sera l'occasion où l'ancien président Bozizé viendrait s'expliquer au peuple. L'ancien président Bozizé s'expliquera au peuple devant les tribunaux. Il n'est pas bienvenu dans ce dialogue parce que c'est un dialogue républicain. Ce n'est pas un dialogue.
Vous avez épuisé votre temps
aux assassins et aux criminels.
On aura une occasion pour parler du dialogue proprement dit. Nous sommes sur la recrudescence.
Je ne réponds qu'à la question du centriste.
Oui, c'est ça. Comme vous l'avez déjà répondu, ça vous va bien. On évolue. Monsieur Adouma, sur ce reportage de Radio Nkiluka que vous venez d'écouter sur les fuites organisées par les forces de l'ordre à l'intérieur de Bangui, la capitale.
Oui, ce reportage parle de lui-même. On parle de saisie de machettes et autres. C'est ça que le ministre conseiller appelait qualifié d'arsenal. Ok. Je crois que les résultats sont si mitigés que cela n'a rien donné en réalité. C'est des opérations qu'on fait comme ça pour faire croire à la population qu'on travaille. Mais je dis que c'est un gouvernement irresponsable, à la limite bandit, qui travaille avec des mercenaires. Un gouvernement illégitime qui travaille avec des mercenaires, qui a des milices privées, des requins. Un gouvernement dit légitime, ce qui n'est pas normal. Et s'il fallait être dans la République, on ne se renoncerait pas avec des gens qui utilisent des mercenaires contre le peuple centrafricain, qui n'arrivent pas à les contrôler, qui vont tuer le peuple centrafricain. Et ça, on le voit, on a des photos. Ce n'est pas ça la République.
Mais est-ce que vous voudriez répondre à ma question
que la notion de République devrait être encore inculquée à cela. Bon, concernant les fouilles, c'est parti de quoi? Et ça vise quel objectif? Quelles sont les cibles qui sont identifiées? Moi, je ne vois pas ce que ça donne comme résultat en tant que tel. Donc, qu'on ne nous fasse pas des opérations de la poudre aux yeux pour faire croire qu'on est en train de sécuriser le pays. La preuve, c'est que les requins, eux, circulent librement, font des enlèvements. Nous sommes au courant des tueries qui ont été effectuées. Il y a des choses qui sont documentées. Et cela, le moment venu, effectivement, on aura à en parler plus sérieusement au niveau de la justice. Et donc, le Centrafricain aujourd'hui n'est pas du tout en sécurité et ne peut pas compter sur le gouvernement pour assurer sa sécurité. Et ce n'est pas par des petites opérations coup de poing comme ça pour divertir la population qu'on pourrait espérer endiguer l'insécurité que nous vivons dans notre chair et que, je le rappelle, le Centrafricain n'a jamais vécu aussi mal chez lui. Même le goût du yaourt est si amer ici qu'on ne peut pas le boire.
Monsieur Jean-Michel Madabar, des habitants dénoncent des arrestations arbitraires lors de ces fouilles. D'autres critiques, comme dans le reportage que vous venez d'écouter, la saisie d'objets personnels qui ne sont pas des effets militaires. Quel est votre avis sur ces deux points?
Je pense, Armando, que c'est une question de méthodologie, d'opération. Et que... Vous savez, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle, il y a des professionnels, il y en a qui ne le sont pas. Et nous pensons que c'est des choses qui sont à déplorer, à dénoncer, pour que le gouvernement puisse procéder dans sa humilité et les corriger. C'est comme ça que moi je vois cela. Il y a eu des débordements, des abus, c'est vrai, mais qui peuvent être corrigés. Et puisque la population en parle, ça doit être corrigé. Je pense que, et quand on dit, c'est là où je m'inscris un peu pas dans le
C'est le gouvernement qui doit être, quel que soit ce qu'il est, le gouvernement, c'est notre gouvernement. Et c'est pour ça qu'il est que le ministre Ngwandika est avec nous ici pour parler du gouvernement, parler au nom du gouvernement. Nous parlons au nom du centre et nous disons que nos cris ici, c'est parce qu'il y a une incohérence, le gouvernement n'a pas pu ajuster, ou peut-être que les corps qui étaient mis en synergie pour faire ces opérations ne l'ont pas fait selon la déontologie de la chose. Et que ça doit être corrigé par les professionnels de la sécurité. De mon point de vue, c'est cela. Et dire aussi que c'est tout le monde qui doit, j'ai dit, nous disons que c'est tout le monde. Le gouvernement doit être attentif, comme le ministre Mpoka, le Ngwandika il a, à ce que nous autres ici dans notre diversité, disons pour corriger ces choses-là. Nous n'allons pas dire, nous ne sommes pas venus ici pour dire que non, le gouvernement a bien fait, il fait ceci, il fait cela. Non. Et dans tous les gouvernements, c'est pas seulement le régime actuel. Dans tous les gouvernements, quelles que soient les structures qui sont en place, s'il y a des tares, mais c'est aux hommes comme nous de savoir comment les corriger. Nous sommes dans cette correction, nous sommes dans cette correction là, et nous pensons que c'est pour ça quand je rebondis sur ce que le ministre conseiller venait de dire quand il avait dit par exemple pour casser la sécurité, parce que c'est au niveau tant à Bangui qu'à l'intérieur. Quand on avait connu la présence de CPC dans les parages de Bangui et qu'il y a eu une correction sévère pour les repousser, tout le monde a applaudi. Mais cette opération n'a pas été suivie par le gouvernement. Si ça avait été suivi, tout en sachant que ceux qui sont retirés devaient se constituer en proche d'insécurité, ça est là. Donc le gouvernement doit mettre en place une stratégie pour voir comment frapper à ces niveaux-là. Cela n'a pas été fait.
Vous avez épuisé
nous n'allons pas dire que non, c'est la population qui a tort. Ce que la population doit faire, c'est quoi? C'est de dénoncer.
Et c'est ce que vous êtes en train de faire.
Donc, maintenant, c'est notre contribution.
Voilà. Maître Hyacinthe Gbegba, sur ce que vous venez d'écouter, le point de vue des Centrafricains à travers ces opérations de fouilles dans la ville de Bangui, on parle des machettes emportées, des couteaux emportés, et même certains jeunes se voient raser les cheveux.
Mais ça, le ministre est là pour nous dire, parce que l'intention est bonne. Nous vivons l'insécurité. Maintenant, on a décidé de faire des patrouilles ou bien quoi là, je ne sais pas.
De fouiller.
De faire, de quadriller certains quartiers d'une manière assez désordonnée pour chercher quoi, on ne sait.
Désordonnée.
L'intention, elle est bonne. Mais est-ce qu'on avait donné des consignes claires à ces éléments-là lorsqu'ils allaient sur le terrain pour leur dire, voilà ce que vous devez rechercher. Vous voyez, on a demandé aux éléments de force de sécurité de faire une rafle. Mais c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit d'aller chercher? Lorsque j'entends la population se plaindre qu'on a saisi les machettes, alors que si je sors de ce studio-là, je vais dans les boutiques, je vais trouver les machettes qu'on est en train de vendre. Ça dit que le gouvernement autorise la vente des machettes. Au même moment, lorsque vous achetez, on vous saisit cela. Ça, c'est une contradiction qu'on ne comprend pas.
C'est du braquage.
Deuxièmement, on envoie des éléments, puisqu'ils n'ont pas de consignes claires, ils se comportent...
On ne sait pas.
Voilà, ils se comportent en personnes qui ne respectent pas les institutions. Comment comprendre que ceux-là même qui devaient voter avec la carte d'électeur, un citoyen leur présente une carte d'électeur, ils détruisent ça. Lui-même qui est militaire...
Il y a des élections en cours.
Il y a des élections en cours. Lui-même qui est militaire, il avait voté avec cette carte-là et son compatriote, qui a utilisé ça parce que nous avions des difficultés. La police est en train de faire un effort pour nous établir les cartes, pour nous confectionner des cartes d'identité. Mais à un rythme, parce qu'il y a beaucoup de Centrafricains, et le service
est restreint.
Donc aujourd'hui, le service d'identification qui est en train de faire un travail extraordinaire, mais en attendant, ceux qui ont la carte d'électeur, ça permet juste de les identifier. Mais voilà que les éléments qu'on envoie sur le terrain détruits, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas les institutions.
C'est une question d'organisation.
Parce qu'on ne leur a pas expliqué ce qu'ils devaient aller faire. On organise une rafle pour chercher quelque chose. Et deuxièmement, lorsque j'entends le conseiller me dire qu'il y a un certain monsieur qui est au kilomètre 5, quoi là, en train d'organiser...
Des braquages.
Ce sont eux qui ont constitué ces groupes-là, les Saddam et consorts. Mais qui leur a donné des armes? Ce sont eux. Les Saddam, on les a bien mis dans un projet de réduction de violence. Alors qu'en les mettant dans ce programme de réduction de violence, ils sont encore devenus plus violents. On leur a autorisé des choses. Ce sont les supplétifs. Et lui-même qui est au Conseil de sécurité, il faudrait que lorsqu'on tienne des réunions là-bas, il faut prendre la décision de dissoudre les forces supplétives qui résident au kilomètre 5, que eux-mêmes connaissent parce que ce sont eux qui les gèrent.
Je vous donne une minute parce que c'est le même tour tout à l'heure. Monsieur Fidel Gwandika, sur la plainte dans le reportage, vous avez vu la société civile qui parle de quelques dérapages dans la fouille organisée dans Bangui pour récupérer ou bien rassurer la sécurité de la population. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement à ces questions?
Dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. Ça, c'est pour répondre rapidement aux inquiétudes de Maître Ndiéba.
Et sur le
la réponse a été donnée, s'agissant des cartes d'électeurs, la réponse a été donnée par l'ANE qui a attiré l'attention des forces de défense, de sécurité. Et cette institution a rassuré la population de mettre à leur disposition des nouvelles cartes. Ouais. Et donc, c'est un dossier clos. Maintenant, pour répondre à Jean-Michel Mandaba concernant la sévère chicotte qu'a reçue les gens de la CPC et alliés, il a dit que tout le monde a apprécié. Non, le coup de 20-20 ne l'a pas apprécié. Les gens qui sont contre le gouvernement...
Nous n'avons pas besoin d'apprécier vos alliés. Donc, parce que c'était pour vous des alliés.
Écoutez, moi, je ne vous... Attention, lorsque ce sera votre tour, je vais intervenir. Ça, c'est pour répondre que tout le monde n'est pas au courant. Concernant la plainte de la population, le gouvernement n'est pas sourd à l'appel de la population. Ce n'est pas vous et moi, ici, autour de cette table-là, qui représentons la population. Vous êtes ancien parlementaire.
Ouais.
Il y a les députés de la nation qui représentent le peuple au Parlement.
Ouais.
C'est à l'Assemblée nationale d'interpeller le ministre de la Justice, le ministre de la Défense, le Premier ministre, le chef d'état-major des armées pour répondre à cette pseudo-bavure dont vous faites allusion ici. Il y a des choses que je ne peux pas dire ici concernant les défis. En tant que membre du Conseil de sécurité.
Vous avez épuisé une minute, vous avez fait 1 minute 48.
En plus, le gouvernement, vous accusez quel gouvernement? Le gouvernement vient d'être mis à la place. Nous sommes au début d'un nouveau quinquennat.
C'est la continuité.
Oui, mais nous sommes au début d'un nouveau quinquennat. Ce n'est pas le même projet de société de 2016. C'est un autre projet de société auquel le peuple s'est adhéré. Voilà. Vous avez reçu au niveau du Code 2020 combien de candidats?
Monsieur Gwandika, vous avez épuisé votre
sécurité, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Armando, s'il vous plaît. En tout cas, je ne pense pas que nous soyons venus ici pour entretenir les polémiques entre nous. Non, nous sommes venus.
C'est même pourquoi cela ne m'a rien dit.
S'il vous plaît. Nous devons nous concentrer sur le sujet. Et moi, je disais ici au nom des centristes que je m'interrogeais sur mon répondant et j'ai trouvé que le ministre conseiller Gwandika, qui s'est présenté comme étant membre du conseil, pouvait être l'autorité qui pouvait nous donner des réponses à ces préoccupations ici. Oui, j'ai dit, monsieur le ministre-conseiller, que ce qui avait été fait par les FACA avec les alliés, qu'est-ce que le Centrafricain cherche, c'est la sécurité, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Et j'ai dit que ça a été ils ont, avec cette frappe, à repousser la CPC.
En néanti.
Bon, mais la CPC n'est pas seulement constituée que des mercenaires, il y a des Centrafricains qui sont là. Il y a des Centrafricains qui sont là.
Comme le président Bozizé.
Oui, c'est qu'on, pas seulement comme le président Bozizé, il y a beaucoup d'autres Centrafricains qui y sont. Et qui sont identifiés par les services de sécurité, comme vous le dites. C'est de ça que nous parlons. Nous au niveau du centre, nous disons que, puisque ça a été fait, cette collection est citée par vous, que c'est un exemple, mais c'est un problème de suivi, parce que c'est pour la paix.
Vous l'avez déjà dit, vous l'avez déjà dit, s'il vous plaît.
Quand il dit que c'est le code 2020, le code 2020, c'est ça logique, c'est par rapport aux objectifs qui sont les siens et qui
mais Côte 2020 là le monsieur Adouma prendra la parole peut-être pour répondre. Oui, maître Bruno Yassine Bigba, vous voulez répondre rapidement
Oui, mais je veux répondre parce que je veux dire au ministre Gwandika que l'on est toujours mieux servi que par soi-même. Nous ne pouvons pas attendre les sessions parlementaires qui durent que trois mois pour nous plaindre. C'est vrai qu'on a désigné des députés pour nous représenter.
Et vous êtes dans votre rôle de la société civile.
Mais voilà, et aujourd'hui, si nous sommes en train de souffrir, là, nous sommes en train de vivre l'insécurité, il faut mettre ça au frigo et attendre que la session parlementaire qui demeurera pour demander aux députés d'interpeller le gouvernement, d'interpeller le ministre de la Justice. Donc aujourd'hui, on demande aux Centrafricains de se taire de ne même pas se plaindre.
Si on les FACA font le travail.
Commence la session, on les interpelle. Non, nous interpellons le gouvernement à temps et à contre-temps, parce que c'est l'exécutif, on gère chaque jour. Concernant l'événement du 13 janvier, c'est vrai que nos forces de défense et de sécurité ont repoussé la CPC. Mais il y a une faille terrible. Comment comprendre que les services de renseignement n'ont pas détecté un si grand nombre de personnes qui se rapprochaient de Bangui? Comment il peut nous expliquer ça? Ça veut dire que les renseignements n'ont pas fonctionné. On a failli mettre la vie des gens en danger. Et on a mis notre vie en danger. Parce que logiquement, si les renseignements fonctionnaient, on devait voir. Parce que ces gens ne sont pas venus, sont pas rentrés à Bangui avec des bics. Ils sont rentrés avec des armes. Et ils circulaient quand ils avançaient. La population parlait, le gouvernement avait négligé cela. Et c'est quand ils sont arrivés à Bangui le 13 janvier que maintenant on les a seulement combattus. Mais il y a une faille au niveau des renseignements.
Maître Vida, on évolue. Monsieur Adouma, je vous donne une minute.
Oui, mais vous ne leur avez pas donné une minute. Oui,
hein. Non, vous voulez répondre, d'abord. C'est pourquoi je vous donne une minute.
Oui, je voudrais tout très rapidement répondre au conseiller spécial du chef de l'État. Il est digne de ce poste peut-être. Parce qu'il sait que le conseiller, le chef de l'État, a utilisé les mercenaires. Nous, on n'est pas là, la Côte d'Ivoire n'est pas là pour apprécier l'utilisation de mercenaires pour sécuriser le pays. Il n'y a jamais
un pays normal. Vous parlez de quel mercenaire ?
Le mercenaire Wagner, si vous voulez. Il n'y a jamais eu dans ce monde un gouvernement légal qui a utilisé des mercenaires pour pouvoir rétablir la sécurité dans son pays. C'est ce que lui, il est en train de nous démontrer. Secondo, lorsque le gouvernement était allé signer avec les groupes rebelles au Khartoum, la Côte d'Ivoire n'a pas été associée. Et à l'époque, je lui rappelle cela, que le gouvernement disait que c'était l'opposition qui était l'ennemi de la paix. Vous voyez les raisonnements qu'un gouvernement responsable tient. Et maintenant, quand ses partenaires de la paix se retournent contre lui, il revient pour demander secours à la Côte d'Ivoire de les soutenir. Est-ce qu'il y a une logique dans leur pensée? Moi, c'est la question que je me pose. Ils n'ont qu'à s'entourer de gens dignes de réflexion, capables de comprendre ce qui se passe et de leur rappeler à eux-mêmes ce qu'ils rabâchent.
Le temps que je vous ai donné est terminé. D'après nos informations, les forces de l'ordre et de sécurité manquent de moyens militaires et logistiques sur le terrain, à l'image des soldats accueillis dans l'Ampende qui s'étaient repliés ces dernières semaines au Cameroun face à la progression des rebelles de 3R. Pour vous, le maintien de l'embargo sur les armes à destination de Centrafrique est-il responsable de cette situation, monsieur Ngwadika?
Armando, le Côte 2020 est en perdition. Ils ont un trou béant de mémoire.
Mais c'est une coalition, on appelle
le code 20, la code, si vous voulez, merci. La code 2020, s'il vous plaît, ne date pas du mois de février 2019, mon ami, quand on signait les accords de Khartoum. Ça, c'est un point pour vous rafraîchir la mémoire.
Il y avait déjà Ezingo Biani.
C'est
le précurseur de...
Ezingo Biani a été
dissous. Déjà...
On parle du code
de l'opposition.
Revenez à ma question de tout à l'heure.
C'était déjà l'opposition.
Mon ami, non, calmez-vous. Oui, je reviendrai vers vous, monsieur Adouma.
Allez-y.
Vous parlez de manque de matériel. Nous sommes sous embargo. Écoutez, c'est exactement comme les moustiques. Les moustiques qui nous piquent la nuit pour qu'on meure du paludisme là. Si vous n'avez pas de médicaments pour tuer ces moustiques là, et les moustiques, ils ont leur arme, ils vont vous neutraliser. C'est depuis 2015, au temps de Madame Samba Panza, qu'on demande la levée de cet embargo là. Et même si vous avez quelques armes, comme j'identifie les rebelles comme des moustiques, les moustiques amis de la Côte 2020, même si vous avez un peu de bombes anti-moustiques pour tuer ces moustiques, tu vas pulvériser dans toute ta maison, tu penses dormir calmement, mais vers 1h du matin, 3h du matin, un moustique qui viendra vous déranger et vous allez vous gifler vous-même. Ce qui se passe dans notre pays, il faut que cet embargo-là soit levé pour qu'on ait vraiment la possibilité d'équiper nos forces de défense et de sécurité. Et parlant de Wagner, si Wagner était ici, en Centrafrique, on ne devrait pas manquer d'armes. Les mercenaires ne viennent pas dans un pays avec des hélicoptères, avec une vingtaine de chars, tous les Russes qui sont ici, là, ils sont reconnus par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et merci. Donc, l'affaire de Wagner, il faut que le coup de 20-20 fasse un voyage vers la Libye, vers la Syrie, pour parler de
lorsqu'il
Wagner.
Y a des
vous êtes à pourparlers.
Lorsqu'il y a un voilà. encadrement ici de militaires, même par l'Union européenne, on ne nous envoie pas 500 instructeurs.
Mais sur la réponse.
On ne nous envoie pas 1000.
Sur les éléments
c'est de réponse. C'est à notre demande.
De réponse de M. Flair.
Le taux d'encadrement,
s'il vous plaît. Je vous en prie. Armando. Sur les éléments de réponse de M. Fidel Gwandjika, je vais vous proposer de suivre un autre reportage. Les forces armées centrafricaines ont reçu le 15 mai dernier une nouvelle dotation de la Russie. Il s'agirait essentiellement d'armes et de matériel de guerre. Même si le gouvernement n'avait pas communiqué sur le contenu de cette livraison, le président Faustin Kantou Adira avait personnellement réceptionné la cargaison. Retour sur cette dotation de mai dernier avec notre reporter Rolf Steve de Mialu.
Cette dotation des FACA en équipement militaire fait partie des clauses de l'accord de coopération militaire bilatérale signé entre la République centrafricaine et la Russie. Si certaines régions du pays sont sous contrôle des hommes en armes, l'armée a donc besoin de moyens pour défendre et reconquérir le territoire. L'arrivée de ces matériels est donc nécessaire dans le contexte actuel, selon Marie-Noëlle Koyara, ministre de la Défense.
Il s'agit de renforcer la capacité de nos forces pour les rendre aptes dans un avenir proche. C'est pour cela que, tout en saluant les appuis multiformes dont nos forces ont bénéficié, nous sollicitons l'activation sans délai des prochaines livraisons indispensables à la mise hors d'état de nuire des forces négatives et à la sécurisation durable de notre pays.
L'armée est la grande muette, dit la ministre de la Défense dans son allocution. Le contenu de la cargaison reste secret. Mais de toutes les manières, selon la ministre, il s'agit de matériel moderne pour rendre efficaces les FACA.
Ce que nous venons de recevoir aujourd'hui, c'est seulement une partie de la première livraison qui figure dans l'accord qui a été signé. Il y aura d'autres livraisons. Mais vous dire quelle est la qualité des armes qu'on a reçues et tout, ce n'est pas ça qui est intéressant. Nous avons reçu des équipements létaux et non létaux de la Russie pour notre armée et nos forces de défense de sécurité afin de leur permettre de bien assurer la sécurité de la population.
D'autres livraisons sont attendues dans les prochains jours selon le ministère de la Défense nationale.
Voilà, merci à vous, Ralph Foestev, Demialu. Maître Begba, sur cette question hein, de manque de matériel, vous avez écouté, mais il y a eu des dotations où sont partis ces matériels, qui utilisent ces matériels, puisque sur le terrain, les forces de l'ordre et de sécurité manquent de matériel et de munitions pour faire face à la recrudescence ou au regain même de l'insécurité à l'intérieur du pays.
C'est la question que nous aussi nous posons. Posez-moi lorsque nous écoutons à la radio que nos forces de défense et de sécurité ont reçu une aide en armes, il faudrait mettre ce matériel-là rapidement à la disposition de nos éléments. Parce que certains de nos éléments, mais ce sont nos éléments où nous avions réclamé le retour des FACA sur le terrain, nous les soutenons. C'est vrai, comme il a reconnu heureusement, qu'il y a des brebis galeuses qui commettent des dérapages. Il faut les sanctionner. Malheureusement, il n'y a pas de sanctions. C'est pour cette raison, effectivement, que ces brebis galeuses continuent de s'activer. On entend aussi, ça et là, qu'il y a des dérapages, des violations des droits de l'homme. Il faudrait aussi déjà le faire. Mais ce qui concerne la RCA, nous avions toujours déploré la faiblesse du gouvernement à ne pas dénoncer comment les rebelles reçoivent des armes. Parce que nos frontières sont poreuses. Ces rebelles reçoivent des armes. Comment ? Nous sommes dans un pays enclavé, il y a des rebelles. Mais ils sont surarmés. Ces armes-là passent comment? Le gouvernement devait aussi interpeller tous les pays limitrophes de la RCA sur ce point-là. Malheureusement, il y a une mollesse du gouvernement sur cet aspect. Mais nous demandons toujours à ce qu'effectivement, on n'a pas besoin de cacher les armes que le gouvernement reçoit. Parce que en matière de stratégie, je ne vois pas pourquoi on va cacher ces armes-là. On va sortir pour combattre avec. Nous verrons. Donc, je ne vois pas pourquoi on nous a pas dit. Alors que
merci,
c'est en recevant des armes de qualité qu'on peut combattre ou bien faire peur à l'ennemi.
Le temps nous fait défaut, chacun aura une minute et quelques. Sur cette question hein, de munitions, à l'exemple des autorités de l'OMPND qui ont appelé Bangui à l'aide parce que les forces armées centrafricaines qui étaient à Ndjim se sont retirées parce qu'il manque de munitions et à Kouy nous avons vu, hein, est-ce que ces matériels-là, les dotations ne sont pas du tout suffisantes pour que les militaires puisse défendre la population avec.
Vous me posez la question à moi, Armando, c'est vrai?
Si ça vous va.
Voilà, voilà, je peux essayer. En tout cas, je vais essayer de répondre à cette question sur la base du reportage que nous venons d'écouter ici. Alors, notre compatriote, Madame la ministre.
L'ancienne, non?
L'ancienne ministre de la Défense nous a édifié qu'elle a reçu une dotation venant de la Russie. Mais cette dotation reçue par une autorité de son acabit, mais je pense que ça va être c'est pour le mal que le Centrafricain vit sur toute l'étendue de son territoire que cette dotation est reçue, n'est-ce pas? Bon, alors est-ce qu'à ce niveau-là, c'est une question de gestion de ce matériel-là qui pose problème? Est-ce que c'est une question d'opération sur le terrain qu'il faut ici mettre en exergue? De quoi il s'agit? La question, on a un conseiller du président de la République qui est là et qui participe au Conseil de sécurité, n'est-ce pas? Je pense qu'elle sera, il sera mieux indiqué pour qu'il nous donne des éléments de réponse à cela. Mais à mon avis,
quelques secondes,
tout un régiment quitte une ville, c'est un problème. C'est un problème. Et je pense que le ministre Ngwandika serait vraiment bien indiqué pour donner une réponse claire. Surtout qu'on a, on a à la base un reportage.
Voilà, monsieur Adouma, les rebelles auraient-ils adopté une nouvelle stratégie face à l'offensive des forces de l'ordre et de sécurité nationale et leurs alliés à l'intérieur du pays?
Ouais, le ministre conseiller nous le dira. Ben, on a remarqué tout simplement qu'à un moment donné, les FACA se sont retrouvés du côté du Cameroun. Avec toute la puissance de feu, cela met à nu toute la stratégie que le gouvernement a pour pouvoir combattre cette rébellion. Est-ce qu'elle est bien huilée comme ils nous le clamaient si haut? Ou bien veulent-ils garder les armes seulement pour protéger Bangui? Parce que c'est le pouvoir qui les intéresse. Ce n'est pas vraiment la sécurité de la population, je l'avais dit déjà au départ. Donc, moi, je pense que on est en face d'une situation où le gouvernement n'a la maîtrise de rien, parce que l'insécurité, pour moi, est restée tout entière et peut ressurgir à tout moment. Il n'y a qu'à voir comment les choses se sont passées à Lindao et un peu, vous le rappelez tout à l'heure, autour de Bozoum et ailleurs. Cela veut dire qu'il y a une capacité de ces groupes armés qui est encore là. Et que les gens ne font que claironner ici que la situation est maîtrisée et autres. Donc, vraiment, j'ai du pincement au cœur quand je pense au peuple centrafricain, surtout dans l'arrière-pays qui souffre autant. Et que cela n'émeut pas pour autant également ce gouvernement qui dit être là pour le salut du peuple. Je ne vois aucun indice d'amélioration de la sécurité à l'intérieur du pays, et d'ailleurs cela se reflète sur les activités économiques, et parce que au-delà même de l'insécurité de par les armes qui circulent, il y a toute une insécurité également économique, insécurité routière et autres. Vous voyez même à Bangui comment vous circulez, la route aéroport centre-ville pour laquelle un financement a été obtenu en fin de transition qui n'a pas été réalisée, par exemple. Donc, vous avez toute une insécurité qui est généralisée. Pas seulement une sécurité par rapport aux armes, économiques, etc.
Vous l'avez déjà dit, merci.
Vous voyez comment le peuple meurt parce que les gens n'arrivent plus à sourire parce qu'ils ne connaissent pas de bonheur.
Vous avez posé votre temps, monsieur Adouma, en février dernier, après l'échec de la CPC à prendre le contrôle de Bangui. Le chef de l'État avait déclaré, je cite, « Nous sommes en guerre ». Pourtant, depuis cette déclaration, les attaques des rebelles contre les civils et les FACA se multiplient ces derniers temps. Le gouvernement a-t-il finalement, selon vous, monsieur Fidel Gwandika, réuni tous les moyens nécessaires pour mener et gagner cette guerre?
Plusieurs questions ont été posées par mes contradicteurs.
C'est mieux de commencer par ma question de tout à l'heure. Je vous en prie.
C'est à moi de répondre.
C'est moi qui gère le débat. Merci. Je sais ce qui est important pour nous.
Quand la société civile dit que le 13 janvier 2001, il y a eu une faille, il n'y a pas eu de communication et les gens sont venus jusque à 3 km de Bangui, je dis non, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour les faire venir, les rapprocher. Et puis, les anéantir. Et nous l'avons fait. C'était une bonne stratégie et ça a réussi. Tout le monde applaudit. Grâce au FACA.
que vous fustigez aujourd'hui, vous, de la société civile, des centristes.
Non.
On ne peut pas fustiger une armée nationale.
S'il vous plaît,
comprenez ce que
vous avez un problème. S'il vous plaît.
Voilà. Monsieur le vice-conseiller.
Et donc, c'est grâce à cette armée, peut-être mal équipée, appuyée par les gens que vous qualifiez de mercenaires. C'est grâce
à ce sont les enquêtes qui le disent.
À nos enfants
que sinon, ressortez la convention que vous avez signée.
S'il vous plaît.
Calmez-vous. Gagnez du temps, monsieur Vidal.
Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur toutes les armées de bonne volonté qui ont aidé la République centrafricaine? Les sangaristes étaient là. Qu'est-ce que l'opposition aux sangaristes n'avait pas dit? Deux officiers braves des sangaristes étaient morts pour la République centrafricaine. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur les sangaristes? Qu'ils ont violé, qu'ils ont volé nos diamants. On a montré des vidéos où les soldats français étaient dans les champs de mines pour piller la RCA. Les sangaristes ont été contraints de se soumettre à un jugement. Ils sont sortis indemnes. Donc, c'est les mêmes principes-là, c'est ces mêmes allégations que vous mettez aujourd'hui sur les soldats russes que la Fédération de Russie a mis à notre disposition. S'agissant
de
du discours... Oui,
ils vont passer quand devant le tribunal?
S'agissant du discours de Mme Koyara, c'est un discours récent.
Oui.
Nous avons reçu des armes. On n'a pas caché cela.
Non.
C'est au vu aussi de tout le monde. Mais on ne peut pas vous dire, voilà, on a reçu ça... 1, 2, 3, les caractéristiques.
Non, c'est pas ça. Moi, je vous dis pas. Sur le terrain,
les armes,
manquent de munitions.
C'est très récent.
Ouais.
Et les armes que les pays nous donnent gracieusement, on ne doit pas immédiatement les utiliser.
Ça fait 2 mois.
On ne doit pas jamais les utiliser immédiatement. Il faut l'accord du Conseil de sécurité des Nations Unies pour lui dire on a tel calibre, tel calibre, tel calibre. On a un nombre de bataillons déjà formés. L'UITM donne le nombre de bataillons formés. C'est en ce moment qu'on donne les armes à nos forces de défense. Parce que toutes les armes venant de tous les pays qui nous font cadeau sont sous embargo. Et même la formation aussi est sous embargo. Donc on ne peut pas recevoir les armes aujourd'hui et donner. Nous avons reçu dans une première livraison 5000 armes avec des armes hyper sophistiquées. Mais le Conseil de sécurité des Nations Unies a dit non, ça vous ne l'utilisez pas. Vous n'avez pas besoin d'un arme qu'on doit de bombe pour anéantir les rebelles. Ça, vous ne le mettez pas. Et donc, nous, on respecte les décisions
et voilà,
du Conseil des ministres.
Vous avez épuisé les 3 minutes que je vous donne.
Voilà.
Merci beaucoup, monsieur Fidel Guandika.
Voilà. Je vous remercie.
S'il vous plaît, Armando, s'il vous plaît. Armando, s'il vous plaît.
Je vous remercie.
Armando, s'il vous plaît. Armando, s'il vous plaît.
Non.
Armando, s'il vous plaît.
Je ne donne pas la parole.
Dire ici, sur ce micro, que, en tout cas, enfin, cette plate, le code 2020, la société civile et les centristes.
Parlez pour vous-même.
Fustige nos facas, je dis non. En tout cas, au nom du centriste, je dis non. Je pense dans tout ce que nous disons ici, personne n'a mis en accusation nos forces des armées. Mais ce qu'on se dit ici, on dit, on se pose des questions. Est-ce qu'il y a un problème de gestion qui se pose? Mais les éléments qu'ils nous donnent.
Je vous ai répondu, c'est bon,
c'est
tout.
C'est des questions militaires, nous comprenons.
Ça fait une heure et demie, donc on n'a pas fustigé.
On va élaguer dans le débat. On n'a pas fustigé nos forces armées, non.
Oui, Maître Begba, je vous donne 15 secondes.
C'est juste pour dire au ministre Nguandika qu'il ne faut pas déformer. Nous déplorons le fait que certains éléments incontrôlés commettent des bavures. Ouais. Mais nous avions réclamé le retour de nos facas, mais on n'a pas demandé à ce que les facas viennent, certains facas viennent se retourner contre la population pour les martyriser, ainsi que les forces alliées. Nous demandons aux forces alliées de venir nous aider, mais pour ne pas venir violer les droits de l'homme.
Vous écoutez les fake news, c'est ça.
Il ne faudrait pas qu'ils déforment nos propos.
C'est les fake news que vous écoutez.
Monsieur Fidel Guandika,
nous sommes à Bangui.
Oui, et c'est la fin de ce débat politique.
C'est vous qui êtes le spécialiste des fake news, effectivement.
Maître Bigba, c'est bon. Nous mettons fin à ce débat d'aujourd'hui. Je rappelle que nous l'avions consacré au regain de l'insécurité à Bangui et à l'intérêt du pays. C'est le thème du jour. Merci à tous nos invités. Merci à Maître Yacente Brino Begba. Il est membre du groupe de travail de la société civile. Merci à Fidel Guandika, ministre conseiller spécial du président de la République. Merci à Jean-Michel Mandaba, président du Parti pour la gouvernance démocratique. Et aussi Monsieur Raymond Adouma, ancien ministre et membre de la coalition de l'opposition démocratique. Armand Nguendi, c'est bien moi. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. Au revoir.